Père Nicolas Sautreau, bonjour.
Bonjour Sandrine, bonjour à vous tous. Heureux de vous retrouver aussi.
Joie partagée.
Avec le Père Faber, toujours et encore, tout pour Jésus. Et cette fois-ci, nous allons continuer exactement le déroulement du texte, là où nous l'avions laissé la semaine dernière. Donc le thème général, c'est l'action de grâce, l'esprit d'action de grâce et l'esprit de reconnaissance. Et le Père Frédéric nous laissait sur une idée extrêmement féconde, puisqu'il exprimait cette conviction que la prière de demande peut venir d'une forme d'égoïsme. Je demande pour moi, je m'intéresse à moi et je demande des choses à Dieu pour moi, alors que la vraie prière d'action de grâce, la prière de reconnaissance, elle, est une affaire d'amour. Affaire d'amour lorsqu'elle est une authentique prière de reconnaissance. Et juste avant le point où nous étions arrêtés, le Père Frédéric disait « Remercier un bienfaiteur pour obtenir davantage de lui, c'est une demande déguisée. » Donc on est encore dans la prière de demande et il n'y a plus cette forme de désintéressement, tout simplement cet amour qui anime toujours la vraie prière d'action de grâce, le vrai mouvement de reconnaissance. Alors c'est vrai dans notre relation avec Dieu, et je crois que c'est très intéressant de le déplacer dans nos relations entre personnes humaines, dire merci du fond du cœur, vraiment sans arrière-pensée, c'est ça que veut présenter le Père Faber, dire merci, c'est un signe d'amour. Et quelqu'un qui dit beaucoup merci, qui dit sincèrement merci, il y a très très probablement de l'amour et de l'amour surnaturel dans le fond de son cœur. Voilà ce que le Père Faber essaye de nous inspirer pour nous offrir une sorte de baromètre par rapport à notre vie de prière et plus largement toute notre vie, et bien sûr particulièrement notre vie spirituelle et surnaturelle, baromètre au moyen de l'espace qu'occupe la prière d'action de grâce dans notre vie, dans notre existence globale, totale. Donc, depuis le plus simple de la vie quotidienne jusqu'aux mouvements spirituels les plus élevés et les plus surnaturels. L'action de grâce est tellement une affaire d'amour que nous remercierons le Seigneur plus que jamais dans les cieux quand il aura couronné tous ses dons par le don de l'amour parfait, de l'amour de la gloire, de l'amour qui vient de la vision béatifique. Quand il nous aura donné de lui-même tout ce que nous pouvons recevoir, que nous n'aurons plus rien à attendre de lui, alors l'action de grâce deviendra parfaite. Vous vous souvenez que j'avais un peu insisté sur l'émerveillement du jeune Faber lorsqu'il découvre le culte catholique, lorsqu'il découvre la liturgie du rite romain déployé, vécu de l'intérieur. Et il y a toujours cette tendance liturgique au fond de son cœur, finalement. Il a toujours soigné lui-même sa manière de célébrer la liturgie. Et il nous ramène encore une fois à la liturgie en nous disant que l'action de grâce, c'est l'essence même du culte catholique. Et de même que notre amour grandit au fur et à mesure que nous entrons dans cette action de grâce, eh bien, lorsque nous négligeons l'action de grâce, la reconnaissance, nous faisons voir la faiblesse de notre amour. Et là, nous avons, avec cette phrase-là, lorsque nous négligeons le merci, nous faisons voir la faiblesse de notre amour, nous avons l'amorce de ce qu'il va nous dire de particulièrement percutant ce soir au sujet de la tiédeur. C'est un peu comme ça, avec le Père Faber, il y a des moments où vraiment on est beaucoup décapé, beaucoup mis à nu, alors qu'on ne s'y attend pas. On est dans quelque chose autour de l'action de grâce, ça semble extrêmement beau, extrêmement élevé, surnaturel, et il va nous parler de notre tiédeur à nous. Et ça commence avec ça, ne pas manifester l'action de grâce, c'est manifester que nous avons peu d'amour. Si nous avons raison de plaindre Dieu parce que les hommes pêchent contre lui, plaignons-le davantage encore en voyant combien les hommes se montrent froids envers lui, combien les hommes se montrent avares d'actions de grâce. Alors, l'expression « plaindre Dieu », le père Faber sait qu'elle est un peu limite, un peu piégée, parce que comment peut-on plaindre Dieu dans la mesure où Dieu est la béatitude parfaite et infinie ? Alors, il se range derrière le docteur de l'Église, saint Alphonse de Ligorie. Il dit « c'est une expression hardie de saint Alphonse de Ligorie, mais pourquoi ne pas la reprendre ?» Plaindre Dieu, pour nous faire comprendre que d'une certaine manière, et là il sait qu'il marche sur des œufs, hein, d'une certaine manière, la froideur, le manque d'action de grâce est plus grave que le péché. Que le péché brut de décoffrage, le bon gros péché, il n'y a aucun doute, c'est quelque chose de mal. C'est vraiment, ça appartient peut-être même à l'ordre des 10 commandements. Eh bien, ce péché-là doit nous conduire à moins plaindre Dieu, à moins avoir d'une certaine manière de compassion pour Dieu, que tout ce qui est de l'ordre de l'ingratitude. Rien n'est autant odieux pour les hommes du monde que l'ingratitude. C'est vrai que si nous plongeons dans notre propre expérience, lorsque nous avons été victimes de grandes ingratitudes, c'est quelque chose qui a été pour nous particulièrement répugnant au sens propre du terme. C'est quelque chose qui est vraiment, avec le mot qu'il utilise lui, odieux. L'ingratitude. La belle prière du père Léonce de Grand-Maison demande que notre cœur ne soit fermé par aucune ingratitude. Et plus on avance dans notre vie terrestre, plus nous nous rendons compte que, hélas, l'ingratitude est une part de notre pain quotidien. Eh bien, c'est ce que Dieu doit recevoir chaque jour, chaque instant. L'ingratitude, comme des tonnes et des tonnes d'ingratitude qui sont versées sur le cœur de Dieu. La langue ne pourrait pas exprimer tout ce que Dieu a fait pour l'homme. On ne pourra jamais épuiser l'abondante mine de miséricorde que renferme chacun de ces titres de créateur pour nous, de roi, de rédempteur, de père, de pasteur. Et pourtant, la réponse humaine à tout cela est très très souvent l'ingratitude. Dieu aime à être remercié. Alors pourquoi est-ce que Dieu aime à être remercié ? Est-ce que ce serait un signe d'un secret amour propre en Dieu, incompatible avec sa sainteté, incompatible avec sa pureté divine ? Non, en aucun cas. Dieu aime à être remercié parce que Dieu nous demande notre amour. Dieu, comme nous le disons parfois, se fait mendiant de notre amour. Et c'est de sa part un acte d'amour infini, de la part du Seigneur, que de demander notre amour. C'est une des préfigurations de l'incarnation du Fils, que dans l'Ancien Testament, Dieu s'abaisse déjà à demander l'amour des personnes humaines. En demandant l'amour, Dieu se fait déjà tout petit. Dieu souhaite que nous augmentions sa gloire en lui donnant cet amour et cette reconnaissance, cette action de grâce, et nous, le plus souvent, nous lui refusons. Le comble de l'horreur, dit le cher père Frédéric, on ne peut pas oublier que c'est aussi un contemporain d'Edgar Poe. Dans la littérature anglaise, apparaît, un peu pour la première fois, toute la littérature d'horreur. Tous ces romans d'horreur, ces nouvelles qui racontent des choses horribles pour faire frémir, pour donner le frisson. On sait même que c'est peut-être un des génies de la littérature anglo-saxonne que d'aimer faire frissonner, le frisson d'horreur. Et là, on retrouve un petit peu cette fibre-là en disant il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'horrible. C'est que cet affront n'est pas, comme le scandale du péché, l'œuvre des ennemis de Dieu. Alors on sent que, évidemment, le père Faber sait que ceux qui vont lire son livre sont très peu probablement des ennemis de Dieu, et que son livre s'adresse à des personnes qui veulent avoir une spiritualité, qui veulent même grandir dans cette expérience de la vie spirituelle et de la communion avec Dieu. Donc il sait exactement quel est son cœur de cible. Son cœur de cible, c'est le baptisé qui a vraiment commencé à prendre au sérieux son baptême, qui aime son Seigneur et son Dieu, et qui cherche à progresser dans la vie spirituelle. Et c'est à celui-là qu'il s'adresse. Donc, nous pouvons avoir la prétention de dire qu'il s'agit de nous. Et à nous, il dit, eh bien, ce n'est pas l'œuvre des ennemis de Dieu. Cette tiédeur et cette ingratitude, ce n'est pas le propre de ceux qui ne sont pas du tout convertis à l'amour de Dieu. Non, cet outrage est fait à Dieu par les siens, par ceux qui fréquentent les sacrements, par ceux qui font profession de piété, par ceux qui sont finalement déjà des fervents. Cet outrage est fait par ceux que Dieu comble chaque jour des dons les plus précieux de son Esprit Saint. Beaucoup d'entre nous sont frappés d'horreur lorsqu'ils méditent sur ce que peut bien être un vrai bon gros péché mortel, puisqu'il faut employer le mot, donc un péché qui tue la présence de la Sainte Trinité dans notre âme, qui tue la grâce, qui tue les opérations des dons du Saint-Esprit, qui tue les vertus morales infuses, ce péché-là qui chasse Dieu de notre cœur, frappé d'horreur aussi par un sacrilège, une manière de mal user des choses sacrées. Et tout cela est légitime, dans la mesure où c'est encore une fois le péché hein, qui nous frappe d'horreur et non pas le pécheur. Il y a un très grand amour des pécheurs, c'est même une des caractéristiques du curé d'Ars, de Saint Jean-Marie Vianney. Cette tendresse pour les pécheurs. Et Saint Jean-Marie Vianney, parce qu'il appartenait au diocèse de Lyon, tous les ans, le 12 octobre, célébrait la fête de celui qui est le bon larron. Voilà, il y a une fête dans le calendrier liturgique du diocèse de Lyon qui est la fête du bon larron. Et il y avait dans cette célébration une demande faite à Dieu d'avoir un très grand amour pour les grands pécheurs et de demander à Dieu la conversion pour les grands pécheurs. Donc, absolument pas être horrifié par la présence des grands pécheurs, par la présence de ceux qui sont très très loin de Dieu, mais par le fait même de l'existence du péché. Eh bien, nous sommes blessés par ce scandale, nous sommes blessés par ceux qui refusent la vérité sur Dieu, mais nous devrions nous blesser nous-mêmes lorsque nous regardons notre ingratitude parce qu'elle est fréquente. Nous refusons de donner à Dieu l'amour qui lui est dû, et cela nous le refusons en négligeant de rendre grâce à Dieu. Et là nous allons retrouver un des grands thèmes du père Faber dans ce livre « Tout pour Jésus », le fait que les choses de Dieu sont faciles à faire et faciles à vivre. Et il dit, pourtant, il est si facile, si aisé de glorifier Dieu. C'est si facile de dire merci. Il fait partie de, là encore une fois, la littérature la plus commune, de dire un sourire ou un merci, et qu'est-ce qu'il y a de plus facile? Alors pourquoi être avare de vos merci? Eh bien, dans la relation directe avec Dieu, cela est d'une certaine manière encore plus valable. Oui, c'est si facile d'avoir cette attitude de reconnaissance, d'action de grâce, de gratitude à l'égard de celui qui est à la fois notre rédempteur, notre créateur, notre Père et aussi notre époux bien-aimé dans la lumière et la puissance du Saint-Esprit. Cependant, c'est si facile et nous ne pensons pas à le faire. Eh bien, si nous oublions régulièrement de le faire, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu véritablement? Combien de fois faudrait-il répéter que nous n'avons rien d'autre d'important à faire, en toute dernière analyse, que de louer Dieu et de remercier Dieu. C'est vraiment le grand devoir qui est en même temps la grande joie de la vie humaine que d'être en relation avec Dieu pour l'adorer, recevoir ses dons et ayant reçu ses dons, lui dire un grand et sincère merci pour ce qu'il est et pour ce qu'il nous donne. Comment pouvons-nous vraiment désirer et désirer fortement autre chose que ce mouvement d'aller-retour avec Dieu, de recevoir sa grâce et d'être en action de grâce? Les hommes se trompent et pensent aimer Dieu alors qu'ils ne l'aiment pas. Et on peut reconnaître la faiblesse de son amour pour Dieu et la facilité avec laquelle on pourrait arriver à l'aimer davantage si nous entrions dans ce chemin de l'action de grâce. Nous reprochons aux grands, grands pécheurs de vivre en dehors de la grâce de Dieu, d'être éloignés des dons de Dieu, mais nous ne pouvons pas leur reprocher de ne pas faire d'action de grâce. Pour eux, on en est à l'étape d'avant l'action de grâce, puisque peut-être vraiment de leur faute, peut-être dans le secret de Dieu pour d'autres raisons, et la grâce n'est pas encore arrivée jusqu'à eux, y compris la grâce de la conversion. Il y a pour eux le chemin de la conversion, le chemin de la pénitence, le chemin de la réconciliation, le fait d'être touché par la rédemption du Seigneur Jésus. Ne pas faire l'action de grâce, c'est un acte d'ingratitude que Dieu ne peut reprocher qu'à des enfants à qui il a déjà pardonné, des enfants qui vivent en paix avec lui et qui ont tous les dons de Dieu. Cette vérité, dit le père Faber, mérite une attention spéciale. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi sur ce point, mais selon moi, les fautes des personnes ferventes, je ne veux pas dire leurs erreurs et leurs faiblesses, mais leurs fautes volontaires et dans lesquelles le cœur a jailli, entraîne toujours avec elle je ne sais quoi de si odieux que telle est peut-être la raison pour laquelle Dieu, dans l'Apocalypse, éclate dans un langage si extraordinaire et si terrible contre la tiédeur. Ça y est, le mot est lâché. Il va s'agir de cette réalité étonnante qu'est la tiédeur, cette réalité déconcertante dans la vie des personnes ferventes qui a pour nom la tiédeur et un nom dont le père Faber nous suggère bien qu'il vient de la Révélation, qu'il vient en particulier du livre de l'Apocalypse et qu'il a déclenché cette expression du Seigneur dans l'Apocalypse, c'est comme si je vomissais les tièdes. Nous avons tous été frappés certainement à notre tour par cette formulation du livre de l'Apocalypse. L'expression de cela va avoir une approche un peu poétique, avec, comme maintenant peut-être vous y êtes habitué, sous la plume du père Faber, des espèces de petites histoires, soit créées par lui, soit trouvées dans des vies de saints. Et là, il y a cette histoire des anges qui demandent à Jésus, pendant qu'il est en train de monter au ciel, donc on est au jour de l'ascension, les anges sont en train de faire un triomphe au Seigneur Jésus. Ça, c'est dans la Bible et dans la liturgie, donc ce n'est pas une histoire qui veut nous enseigner des réalités un petit peu, comment dire, un petit peu paradoxales dans la volonté du père Faber. Les anges sont en train de faire un triomphe au Seigneur Jésus, et là on invente un dialogue entre les anges et le Seigneur Jésus. Donc les anges demandent au Seigneur « Quelles sont ces blessures qui sont là dans tes mains, et les blessures que nous voyons, blessures glorieuses ?» Et le Seigneur répond « Ce sont les blessures que j'ai reçues dans la maison de mes amis. » Voilà. Les blessures que j'ai reçues dans la maison de mes amis, celles qui sont les plus profondes, celles qui sont les plus visibles, ce sont les blessures que m'ont fait mes amis. Nous avons fêté Sainte Marguerite Marie à la Coque le 16 octobre, le jour de l'anniversaire de l'élection aussi de Saint Jean-Paul II. Et il y a dans les révélations du Seigneur Jésus, du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie, des choses qui sont de cet ordre-là, au sujet des personnes consacrées et des amis, le Seigneur se plaint en disant « Les blessures les plus fortes, ce sont celles qui viennent de mes amis, qui viennent des personnes consacrées. » Il faudrait, dit le Père Faber, composer tout un traité sur le péché des personnes ferventes, car ils sont nombreux et variés, et il s'y rattache quelque chose d'odieux qui est propre à ces péchés. L'ingratitude est l'un des principaux caractères de cette espèce de péché. Voilà. Donc s'il fallait écrire tout un livre sur les péchés des personnes ferventes, le Père Faber dit, eh bien, le chapitre sur l'ingratitude serait certainement le plus long et le plus détaillé. Eh bien, ne perdez pas ceci de vue alors que nous sommes en train de parler de l'action de grâce. C'est un sujet qui intéresse particulièrement ceux qui sont profondément ancrés dans la foi. Ceux qui prient, même qui prient beaucoup, qui fréquentent les sacrements, ceux qui, en un mot, forment la partie fervente de nos communautés. Voilà. Alors, je ne sais pas si nous avons l'audace, vous et moi, de considérer que nous formons la partie fervente de nos communautés. Mais alors, si nous avons l'audace de le penser, ce que va nous dire et que va continuer à nous dire le Père Faber risque de nous décoiffer un petit peu. Alors, si vous voulez, nous pouvons faire la pause musicale avant de progresser dans la prédication du Père Faber.
Père Nicolas Sautreau, nous avons Roselyne qui souhaiterait intervenir et vous poser une question. Roselyne, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir, madame.
Père Nicolas.
Je vous écoute.
Oui. Oui, alors voilà, ça me bouscule beaucoup ce que vous dites parce que mon père spirituel m'a demandé dans l'action de grâce. Alors, ça fait un moment que je remercie le Seigneur. Et mais ça me bouscule beaucoup ce que vous dites là.
Oui.
Parce que du coup, je ne sais plus si c'est vrai, est-ce que mon action de grâce, ou si elle n'est pas vraie, ou si je suis intéressée, ou si je ne sais pas. Je sais pas.
En tout cas, c'est le but du Père Faber, hein,
de nous bousculer.
Ben, le plus délicatement possible, mais c'est ça un prédicateur. Un bon prédicateur, normalement, on doit sortir de la prédication en se disant, il faut que je fasse un examen de conscience et que, avec la lumière du Seigneur, j'arrive à y voir clair. Et parce que nous sommes nés après le péché originel, il y a forcément quelque chose d'intéressé dans nos actions de grâce. Il faut l'accepter.
Ah, d'accord. Nous, c'est parce qu'on est pécheurs jusqu'au bout.
Ben, oui, il restera toujours un petit bout.
On est pécheurs pardonnés, pécheurs en conversion jusqu'au bout.
Et le cher saint François de Sales répétait souvent que notre dernier mouvement d'amour propre aura lieu un quart d'heure après notre mort.
Ah ben.
Oui, que l'amour propre est tellement vissé en nous, en partie à cause du péché originel, des suites du péché originel, qu'on n'arrivera pas.
On n'arrive pas à s'en rendre compte, en fait. Et alors, il faut se confesser de notre... Quoi qu'il en soit, il faut... Chaque fois, on doit... Pour se réconcilier avec le Père et par le Christ et dans l'Esprit Saint, et dans nos confessions, de toute manière... Inévitablement, on se confesse de manquer de gratitude, alors, c'est ça?
Oui, et alors, manquer de gratitude, c'est pas forcément un péché, parce que c'est simplement une imperfection. Mais par contre, on se confesse de notre amour propre.
Ah, de notre amour propre.
En reprenant peut-être ce que dit saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, que nous sommes corps, âme et esprit, et ça
oui.
veut dire un amour excessif de notre propre corps, un amour excessif et déréglé de notre propre esprit, et un amour excessif de notre âme. Voilà, une façon trop propriétaire, trop intéressée, trop centrée pour nous-mêmes de nous aimer nous-mêmes.
Ah oui.
Là, on est dans l'ordre du péché, alors que le manque d'action de grâce, il faudrait vraiment que ce soit énorme.
Et
que
pourtant,
ce soit
il dit que c'est... Ah, il faudrait vraiment que ce soit énorme pour...
Ah bah oui, pour que ça devienne un péché, il faudrait vraiment refuser à Dieu l'action de grâce la plus évidente, la plus naturelle.
Alors j'ai mal compris la lecture du livre de votre du
mais
père
que
vous
ce que
lisez,
le
père
Seigneur veut, c'est non seulement qu'on lutte contre le péché, mais aussi contre l'imperfection. Il veut qu'on devienne parfait.
Ah, il veut qu'on devienne parfait, mais c'est impossible.
Comme Jésus.
Enfin, je veux dire, on est imparfait jusqu'au bout.
Soyez parfait comme votre Père.
Dit que les saints ne sont parfaits qu'au ciel.
Mais le Seigneur Jésus dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait.
D'accord.
Avec sa grâce, petit à petit.
D'accord. Et alors, on se confesse en disant quoi? Vous m'avez dit de notre amour propre.
C'est important, oui, notre amour
important.
Propre. L'amour
merci
de soi.
Merci beaucoup.
Merci de votre prière.
Merci,
Roselyne. Merci, au revoir, merci, au revoir.
Au revoir.
Eh bien, ce sont presque les mots du Père Faber après. Il va parler du « Je confesse à Dieu ». Donc, c'est beau, le lien.
Alors, j'ai un SMS qui dit « Bonjour Père, merci pour ce bel enseignement. Pourriez-vous m'indiquer si le Père Faber... » et me donner l'orthographe de son nom, merci.
Alors, il s'appelle Frédéric William, il a deux prénoms, un prénom composé si on veut, et Faber, F-A-B-E-R. Alors, je pense qu'on peut trouver une partie de ses écrits en libre accès sur Internet, et puis ses livres d'occasion, parce qu'il n'a pas été énormément réédité, mais un certain nombre de personnes m'ont dit qu'ils avaient trouvé les livres qui ont été énormément diffusés dans les traductions françaises, les trouver sur les sites qui vendent des livres d'occasion.
Merci Père.
Voilà pour le Père Frédéric, puisque je l'appelle comme ça aussi. Alors on continue ?
Tout à fait.
Puisque ça va être le « Je confesse à Dieu ». Alors j'ai dit que ça allait continuer à décaper, mais encore une fois, c'est son ministère de prédicateur. Les personnes ferventes, eh bien, il faut leur dire, pour l'instant, je ne m'occupe pas des pécheurs, je ne parle pas aux pécheurs. C'est à vous que je parle. Et ma réprobation tombe sur vous et sur vous seul. Il s'agit d'un devoir que vous devez remplir. Donc là, il parle du devoir de l'action de grâce. C'est un devoir que vous devez remplir. Et si vous le remplissez mal, vous, les fervents, vous êtes des misérables. Oui, des misérables, car tel est le nom qui convient à des ingrats. Eh bien, malgré toutes vos prières et tous vos sacrements, vous ne remplissez pas ce devoir. C'est une triste conséquence qu'il vous faut tirer de là. Toutefois, ne perdez pas courage, ne perdez pas cœur. Alors, prenez courage, vous et moi. Alors là, il est en même temps très très sincère, parce que c'est un homme de vérité, un homme d'amour, donc il sait bien qu'il appartient au lot. Comme je disais tout à l'heure, il espère qu'il appartient à cette partie fervente des communautés. Donc vous et moi, prendre courage et dire franchement un « je confesse à Dieu » du fond du cœur, demander à Dieu qu'il fasse grandir la grâce en nous, et demander quels sont les changements que nous devons faire dans notre conduite. Donc, il ne s'agit pas de se lamenter, on demande pardon à Dieu, même si ce sont que des imperfections, probablement que des imperfections dans notre vie quotidienne, que ce manque d'action de grâce, demander pardon, demander la force du Seigneur, et demander la lumière au Seigneur pour voir comment faire davantage de place à l'action de grâce à la vraie action de grâce, celle qui est un don divin, une action de grâce du fond du cœur totalement désintéressée. Délivrez-nous, Seigneur. C'est un choix de traduction, hein, parce que dans le texte original, on ne sait pas exactement comment le Père Faber s'adresse à Dieu le Père. Est-ce que, dans sa sensibilité, du fond de son cœur, il lui dit « tu » ou il lui dit « vous » ? Là, on est assez embêté. Donc, délivre-nous, Seigneur, des fautes ordinaires des personnes ferventes. Et là, il y a une petite formule qui est vraiment très intéressante, même si on va pouvoir la critiquer un tout petit peu. Le Père Faber dit, il y a des sacrements pour le péché, pour la tiédeur, il n'y a pas de sacrement. Voilà. Il y a des sacrements pour guérir du péché, donc particulièrement le baptême, la pénitence et le sacrement de l'onction des malades, mais il n'y a pas de sacrement pour guérir de la tiédeur. Alors, on va voir que ça va se profiler un petit peu plus loin, mais l'objection que nous pouvons faire avec douceur et paix à notre écrivain, c'est de dire, ben, si, finalement, l'Eucharistie est vraiment aussi sacrement de guérison, l'Eucharistie est remède d'éternité, et l'Eucharistie est le grand sacrement qui vient guérir la tiédeur. L'Eucharistie vient, la communion eucharistique particulièrement, vient réchauffer notre charité, vient augmenter notre charité, et elle est vraiment ce médicament, elle est vraiment ce remède qui fait que le feu de la charité ne va pas diminuer en nous. Non pas un sacrement, aucun sacrement, nous le savons bien, n'est automatique ou magique, non pas un sacrement qui va nécessairement produire ce fruit de guérison de la ferveur, mais si nous le vivons comme Dieu le veut, oui, l'Eucharistie guérit de l'absence de ferveur, donc guérit de la tiédeur. Mais la formule vaut la peine. Il y a des sacrements pour le péché, il n'y a pas de sacrement pour la tiédeur. Qui ne sait, pour peu qu'on ait quelque habitude, de faire de l'accompagnement spirituel, donc là, qui ne sait combien la fréquente communion endurcit les cœurs tièdes. Alors ça, je ne veux pas laisser passer ça non plus. D'abord, le Père Faber nous dit que une des autorités qu'il se permet de se donner, c'est non seulement d'avoir étudié, longuement étudié, énormément travaillé la grande théologie, comme la spiritualité, mais aussi d'être un praticien, de confesser énormément et de faire de l'accompagnement spirituel. Donc c'est sur la base de cela, parce qu'il ne peut pas dire qu'en plus de ça, lui-même est quelqu'un de spirituel, de pieux, de proche de la sainteté, ce serait d'un orgueil insupportable, mais il dit au moins, en plus de la théorie, je vous assure, j'ai la pratique. Et c'est aussi sur la pratique, sur l'expérience, tout simplement l'expérience, que je peux me baser pour vous dire des choses extrêmement pragmatiques. Et parmi ces choses pragmatiques, qui peuvent peut-être là aussi nous scandaliser un peu, il y a cette constatation que communier très souvent peut endurcir le cœur tiède. Donc c'est quelque chose qui vraiment est très très impressionnant. Le fait d'avoir cette habitude de la communion eucharistique, alors que l'action de grâce ne domine pas notre vie spirituelle, vraiment comporte le risque de l'endurcissement. C'est vraiment communier d'une certaine manière, sans se l'avouer à soi-même, hein, communier en pensant que c'est un dû de la part du Seigneur. Voilà. Que puisque nous avons une vie de prière, puisque nous allons à la messe, puisque nous nous confessons, eh bien, la communion, c'est quelque chose qui va de soi, que Dieu nous doit, et qu'on ne va pas faire de grandes actions de grâce après la communion, en disant au Seigneur que c'est vraiment quelque chose d'absolument immense, de merveilleux, que nous sommes réellement indignes de communier, que ce ne sont pas que des phrases, que lorsque, juste avant de communier, nous redisons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri », donc il y a là aussi l'expression de la guérison, lorsque nous disons cela au Seigneur, ce n'est pas une formule. Que si le mot « indigne » nous paraît bizarre, nous paraît peut-être mal traduit, il y a toute cette idée que c'est trop grand pour moi. Voilà. Seigneur, cette communion, c'est trop grand par rapport à ce que je suis, c'est vraiment disproportionné, et une fois que je l'ai reçu, je peux être que dans une espèce de confusion dans l'action de grâce. Quel don absolument démesuré par rapport à ce que je pouvais espérer. Et s'il n'y a pas cette attitude-là, le père Faber prétend, avec encore une fois son savoir et son expérience, il prétend que ça va endurcir le cœur. Alors, on n'est pas face là à une parole d'évangile, c'est l'opinion du père Faber. Mais est-ce que ça ne vaut vraiment pas la peine de méditer une telle affirmation que lui a médité longtemps avant de la coucher sur le papier? Qui ne sait, pour peu qu'on ait quelque habitude de l'accompagnement spirituel, qui ne sait combien la communion fréquente endurcit les cœurs tièdes? Mais lui ne s'appesantit pas. Moi, je le fais un petit peu, lui non. Et il passe à une autre idée qui va peut-être nous servir un peu de conclusion. Avez-vous jamais vu guérir 10 personnes atteintes du mal de la tiédeur? Est-ce que, si vous avez l'expérience des dialogues spirituels, d'arriver à parler en vérité avec vos frères et vos sœurs des choses de la vie spirituelle, est-ce que lorsque raisonnablement vous êtes dit qu'il y avait peut-être un peu de tiédeur quand même, alors comment oser, hein, qui suis-je, hein, pour dire que quelqu'un est tiède? Franchement, moi-même, de penser que je suis tiède, c'est plutôt un bon signe, mais penser que les autres sont tièdes, est-ce que c'est un signe de grande qualité surnaturelle? Ça, la question se pose. Mais imaginons qu'il soit un peu raisonnable d'avoir une telle hypothèse sur telle ou telle personne, eh bien, combien de fois avons-nous eu l'expérience de ce passage de la tiédeur à la grande ferveur? Lorsque la tiédeur est installée, je pense que c'est ça qu'il veut exprimer, lorsque vraiment la tiédeur est installée pendant des années et des années, c'est un peu décourageant, je suis bien d'accord comme approche, hein. Lorsque la tiédeur est installée, combien avons-nous d'exemples, encore une fois, qui sont valables, qui ne sont pas simplement des idées en l'air de notre part, mais d'exemples de personnes qui sont passées ainsi de la tiédeur installée à l'authentique ferveur. Qui peut dire que pour lui-même, il a l'expérience de ce passage à une forme de tiédeur, de ce passage de la tiédeur à la grande ferveur? Qui peut le dire? Eh bien, le père Faber nous dit que finalement, une des seules choses qui va pouvoir déclencher ce passage, d'après lui, ça va être un péché, et un péché vraiment qui nous déplaît très très fort. Voilà, telle est son hypothèse. Eh bien, c'est sur cette constatation d'expérience que je vous laisse ce soir, en continuant néanmoins à prier intensément, pour que l'Esprit Saint, qui seul peut le faire, nous aide, nous, déjà, à quitter toute forme de tiédeur et à nous laisser entraîner dans ce feu divin qui permet vraiment d'être dans une joie inadmissible et qui permet de communiquer le feu. Telle est la grâce que je demande au Seigneur pour vous tous.
Merci, Père.
À la semaine prochaine, si Dieu veut.
Alors. Merci, à très bientôt. Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.